sortie du numéro 39, qui sera demain dans les kiosques, et dont le dossier est consacré à la France en Afrique. Ce soir, on va revisiter deux opérations militaires françaises, deux opérations militaires qui étaient destinées, officiellement du moins, à protéger les populations, et deux opérations auxquelles Guillaume Ancel, qui est ici présent, a participé. Donc Guillaume, vous êtes tué. Ancien officier, lieutenant-colonel, tu as servi à l'état-major de l'armée de terre, et tu es intervenu donc en 1994 au Rwanda, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'opération turquoise, et un an plus tard, à Sarajevo, en Bosnie, au moment donc de l'opération menée par l'OTAN contre les forces serbes, et ton travail consistait à guider les frappes sahéliennes. Ces deux théâtres, si je ne m'abuse. Et également, ici présent ce soir, Patrick de Saint-Exupéry, ancien grand reporter au Figaro, fondateur de la revue 21. Toi, tu as été en Bosnie également, et tu as été au Rwanda par deux fois, pendant le génocide, en mai 1994, et tu y retournes un mois plus tard, avec l'armée française, en fin juin 1994. Alors, d'abord, ma première question pour Guillaume. Je fais un saut dans le temps, et après je reviendrai en arrière. Je vais commencer par Sarajevo. Parce qu'en fait, il y a des très similitudes assez grandes entre ces deux opérations. C'est-à-dire que tu vas t'apercevoir, d'abord au Rwanda et ensuite à Sarajevo, que la mission qui t'est donnée est beaucoup plus obscure qu'elle ne paraît. Et pour parler en tout cas de Sarajevo, ton travail donc consiste à guider les frappes aériennes, et pratiquement la plupart de ces frappes sont annulées au dernier moment. Et tu, évidemment, tu t'interroges, tu essayes de comprendre pourquoi l'aviation française finalement épargne les cibles serbes que tu leur indiques.
Et voilà, je pense que vous m'entendez. J'espère que je vais être compréhensible ce soir. J'ai essayé de ne pas être trop décousu. Donc, je suis Guillaume Ancel. Je suis effectivement un ancien officier supérieur de l'armée de terre. Je suis Saint-Cyrien, breveté de l'école de guerre. Je suis breveté aussi en management des organisations. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui m'a frappé dans ces opérations, qui étaient très dures, c'est le décalage entre la réalité et la version officielle. Celle qu'on nous a racontée, qu'on nous raconte d'ailleurs, parce qu'on continue à nous raconter depuis 22, 23 ans, qui est une fable. Et plus on la laisse se raconter, plus on finit par croire qu'elle a un début de réalité. Moi, ce que j'aimerais simplement, c'est, par des témoignages très réalistes, introduire des débats sur qu'est-ce qu'on a fait là-bas, et au fond, derrière, quel système de contrôle démocratique on a réellement en France pour s'assurer de la réalité de nos interventions qui sont menées quand même au nom de la France. Alors, je vais prendre un premier exemple, puis je vais redescendre dans le temps, si vous permettez, je vais parler de Sarajevo. Sarajevo, je viens de publier aux Belles Lettres un livre qui s'appelle « Vent glacial sur Sarajevo », qui est un témoignage personnel sur le siège de Sarajevo. Nous sommes en 1995. J'ai quelques années de moins. Je suis capitaine dans la force d'action rapide et donc je dirige une équipe qui est spécialisée dans le guidage sur le terrain des frappes aériennes, des bombardements. J'ai été détaché dans une unité de légion étrangère qui est localisée sur l'aéroport de Sarajevo, aéroport qui au passage est le verrou du siège de la ville, pour mener une opération qui est compliquée mais finalement, qui est dangereuse mais assez simple dans la conception. C'est qu'en 1995, ça fait 3 ans que la ville est assiégée. 3 ans. Personne d'entre nous ne sait ce que c'est qu'un siège. Parce que c'est quelque chose qui a disparu de notre ère. Et un siège, ça veut dire que non seulement on ne peut pas sortir, non seulement on ne peut pas vous approvisionner, mais tous les jours, vous êtes martyrisés par des bombardements. Vous vous demandez à quel moment vous, vos enfants vont périr. Enfin, c'est ça, un siège. Donc quand on intervient en 1995, ça fait 3 ans que la population est soumise au tir quotidien des canons serbes. Et l'ONU a réussi a trouvé un accord entre les factions pour dire qu'il n'y aura plus d'armes lourdes utilisées autour de la ville. Donc il n'y a plus de bombardement possible. Soit les canons sont mis dans une zone de regroupement qui est contrôlée par l'ONU, soit on les détruit. Et moi, je suis venu pour les détruire avec cette équipe qui est spécialisée. L'OTAN a mis à notre disposition une armada aérienne absolument inouïe, la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour qu'à tout moment, on puisse détruire un canon qui pointerait son nez ou qui, bien sûr, menacerait la ville de Sarajevo. Donc la mission me semble simple. On est très entraînés. On est très bien organisés et équipés pour le faire. Et un vent glacial, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai compris progressivement que la mission que nous devions mener n'était pas celle pour laquelle nous nous étions préparés. Qu'en fait, en aucun cas, nous devions nous en prendre aux Serbes. Et je peux vous assurer que s'interposer dans une mission quand vous avez l'interdiction de vous en prendre aux agresseurs, c'est très, très, très compliqué. Et nous nous sommes pris dans ce piège. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas pu protéger la ville, mais assez rapidement, on s'est retrouvé menacé même par les Serbes qu'on était censé défaire, qui avaient bien compris qu'en fait, ils pouvaient s'en prendre librement à nous, puisque nous avions l'interdiction de s'en prendre à nous. Dans une politique qui n'a jamais été affichée, mais qui était très étroitement appliquée. Et contrairement à la version officielle, où en somme on a en tête que c'était l'ONU, pardon, je vais grossir, c'était le bordel de l'ONU, donc c'était incapable de conduire une opération. La réalité à laquelle j'ai assisté, c'est qu'en Yougoslavie, pour Sarajevo, tous les postes clés étaient tenus par des Français qui avaient pour directive d'appliquer cette politique secrète mais impitoyable, qui était de protéger les agresseurs serbes. Vent glacial sur Sarajevo, c'est la relation, la réalité. Évidemment, elle est assez troublante, ce qui est assez orthogonal avec cette fable officielle. Et j'ai surtout voulu raconter mes compagnons d'armes, ces soldats professionnels, leur courage, ces situations inextricables et cette ville assiégée que nous n'avons pas su protéger. J'ai aussi voulu raconter ce décalage, c'est même pas un décalage, c'est cette contradiction qu'il y a entre cette histoire officielle qu'on essaye de nous faire gober et la réalité de ce qui se passe en opération, vu par eux, un témoin parfaitement subjectif et étroit, j'ai une vision très limitée des choses, mais ce que j'ai vu est totalement incompatible avec ce qu'on raconte sur le siège de Sarajevo. C'est pour ça que je veux le raconter, et je l'ai écrit, pour qu'on puisse le citer et faire débat au lieu de faire polémique. Et ce que je voudrais interroger aussi, ce sont ces décisions politiques, encore une fois d'opération au nom de la France, qui en réalité ne sont jamais débattues, donc même pas expliquées. Alors heureusement, c'était la première fois et la dernière fois que ça arriverait, puisqu'en fait, je revenais du Rwanda. Donc 6 mois avant, en juin 1994, je suis détaché dans une unité de la Légion étrangère pour conduire des frappes aériennes. Et je suis engagé dans l'opération turquoise. Mais c'est troublant le côté bis repetita. Je vais aller vite.
Juste peut-être préciser quand même, hein, donc l'opération turquoise, elle est décidée en juin 1994. On est 3 mois après... Pardon, excusez-moi.
On est 3 mois après le début du génocide. Donc là, c'est... Sarajevo, c'est 3 ans après. Là, c'est 3 mois, mais le génocide est quasiment terminé. Il y a déjà à peu près, sans doute, entre... On dit, selon l'ONU, les estimations de l'ONU, déjà 800 000 morts au Rwanda. Mais le but officiel, c'est un but humanitaire. Il s'agit, encore une fois, de venir au secours des populations qui sont massacrées. Et l'ordre, et ça c'est ça qui est très étonnant, c'est que l'ordre qui vous est donné, donc en juin 1994, c'est de reprendre la capitale, Kigali, qui vient de tomber, qui est tombée un peu plus tôt, qui est en train de tomber aux mains des rebelles du FPR.
Le Rwanda, c'est... Pardon, c'est peut-être un peu fort, comment ça va ? Le Rwanda, c'est très intéressant, parce qu'on part en juin, donc dès que la résolution de l'ONU est accordée aux Français, pour une opération humanitaire. Moi, je pars avec une unité de Légion étrangère qui est entraînée uniquement à faire des raids motorisés. Et l'opération à laquelle on se prépare, c'est remettre au pouvoir le gouvernement qu'on a toujours soutenu depuis des années, depuis 1990. Honnêtement, on n'est pas choqué. Hein. C'est une opération tellement classique dans la France-Afrique qu'on va faire ça avec le professionnalisme des légionnaires. Simplement, quand on arrive sur place, c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que les gens qu'on veut remettre au pouvoir, c'est ceux qui commettent les crimes massifs. Enfin, à l'époque, on parle de crimes massifs dans l'armée française. On ne parle pas encore de génocide. D'ailleurs, on essaye de ne pas nous faire parler de génocide parce que la qualification judiciaire serait différente. Donc, on est extrêmement gêné. Puis heureusement, l'opération est avortée, mais vraiment au dernier moment, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Et là, on crée une zone humanitaire sûre dont un des effets centraux a été de permettre aux génocidaires de quitter tranquillement le Rwanda et d'aller se réfugier au Zaïre. Et au passage, d'organiser l'exode de leur population avec une épidémie de choléra, 100 000 morts supplémentaires. Honnêtement, on est très mal à l'aise avec cette opération. Et je me souviens que le commandant du groupement, le soir, qui s'occupait spécifiquement du passage des membres du gouvernement qui transitaient par nos zones pour se réfugier aux Zaïre, disait ils ont du sang jusqu'au cou. Et moi, on m'a donné l'ordre de leur demander de quitter le Rwanda. C'est la seule mesure qu'on avait le droit de prendre contre eux, c'était de leur demander de ne pas rester dans la zone humanitaire. S'il vous plaît, ne restez pas dans la zone humanitaire. Pénible. Mais dans la deuxième quinzaine de juillet, donc techniquement, le génocide...
Ça peut-être terminé. Peut-être que ça, on reviendra sur la deuxième quinzaine de juillet après, peut-être. Déjà, poser le cadre de l'opération Turquoise.
Voilà, donc on intervient dans ces conditions qui sont assez, enfin, qui n'ont rien à voir avec le mandat humanitaire qui a été affiché. En fait, on est venu pour remettre au pouvoir un gouvernement, comme on fait toujours en Afrique, sauf que ce gouvernement commet un génocide. Et qu'en plus, on est informé. Alors quand je dis « on », c'est pas nous. Le plus haut niveau de l'État est informé par ses services de renseignement, qui sont la DGSE, que ce sont eux qui organisent ces crimes massifs. Donc, par conséquent, il faut absolument s'en défaire et les condamner. Sinon, ils l'ont écrit, on sera un jour accusé de complicité. Quand nous, on débarque au Rwanda, on ne peut que constater que ce sont les forces gouvernementales qui commettent le génocide. Dans un incident qui est emblématique de l'opération, ce sont les collines de Bicécéro. Un reporter, Patrick de Saint-Exupéry, se retrouve avec les forces spéciales et il tombe sur des rescapés, qui sont vraiment des rescapés. Hein. C'est des gens qui sont blessés à mort, qui sont en totale survie. Et les unités qui sont là reçoivent l'ordre de ne surtout pas s'en occuper, parce que ça n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de stopper les soldats du FPR, de Paul Kagame, qui sont en face, pour permettre au gouvernement de continuer à vivre. Et donc les rescapés, c'est pas notre affaire. Quoi. Donc l'unité reçoit l'interdiction d'aller s'occuper des rescapés. Et il faudra attendre 3 jours qu'un de mes camarades, parce que les gens qui agissent mal dans ce genre d'opération, mes camarades des forces spéciales, décident de se perdre, de revenir sur l'endroit où c'était interdit d'arriver, mais cette fois avec suffisamment de moyens de transmission pour communiquer avec le monde entier le fait qu'on avait trouvé des rescapés et déclencher une opération de secours. Et s'il n'avait pas fait, je pense qu'il n'y aurait plus aucun rescapé aujourd'hui de Bicécéré. Donc pour moi, c'est vraiment... C'est l'illustration même de la duplicité de cette opération, c'est-à-dire qu'on a affiché au monde entier qu'on partait dans une opération humanitaire, alors qu'en réalité, on avait un but très classique de rétablir un gouvernement qui était notre allié en France-Afrique et qui simplement était en train de commettre un génocide.
Mais ça, justement, ce décalage entre la mission telle qu'elle est définie officiellement et les ordres que les militaires reçoivent sur le terrain, ce décalage-là, Patrick, toi, tu l'observes, justement. Les militaires eux-mêmes, de temps en temps, refusent d'appliquer certains ordres et prennent des initiatives qui vont qui contreviennent même à ces ordres, comme ça va se passer,
oui,
justement.
Non, dans le cas de Bicécéro, effectivement, des soldats ont décidé de désobéir aux ordres. Hein, c'est clair, des personnes impliquées dans Bicécéro est un adjudant-chef du GGN qui s'appelle le Progno, qui a témoigné et qui dit dans le texte « J'ai, mais le jeu n'est pas un jeu solitaire, pas parce qu'il est avec un groupe, ce sont des camarades, donc c'est nous qui avons décidé de désobéir aux ordres pour sauver ces gens-là. » Voilà, et Bicécéro, c'est un endroit qui est absolument étonnant, pas parce que c'est à la fois magnifique, vous êtes au-dessus du lac Kivu, vous êtes sur des montagnes, c'est d'une beauté ensorcelante. Les Bicécéro, à l'époque, étaient simplement un champ de mort. Il y avait des morts partout. D'une manière plus générale, moi je voudrais revenir, parce que Bicicero est un passage important, qui est d'ailleurs en procédure judiciaire. Hein. Il y a une procédure judiciaire, il y a eu des plaintes qui ont été déposées depuis plus de 10 ans. C'est une procédure, c'est une instruction qui avance très doucement, mais il y a néanmoins une instruction en cours. Et si je ne me trompe pas, dans cette instruction, il y a 2 généraux français qui sont placés sous le statut de témoin assisté. Voilà, qui est un statut assez particulier dans la justice. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas tout dit. Voilà, ce qu'ils leur ont reproché, c'est de ne pas avoir tout dit et d'avoir eu un peu de tendance à tronquer la réalité des événements tels qu'on peut la reconstituer au travers d'un travail de témoignage, de recoupement des documents, d'archives et aussi de paroles qui se libèrent, parce qu'avec le temps, sur ce type de dossier, les paroles se libèrent. Peu à peu, doucement, mais elle se libère. Je voudrais revenir très rapidement sur nos itinéraires, parce qu'en fait, c'est très étonnant. On aurait pu se croiser au Rwanda, on aurait pu se croiser à Sarajevo. Moi, je suis journaliste, Guillaume est soldat, officier, mais toute cette période-là, il y avait une certaine proximité. Et cet écart dont tu me parlais, Christophe, en fait, on le notait à beaucoup de niveaux. Moi, ce qui me frappait, c'est... Sarajevo, tu l'as éprouvé, et tu le racontes dans ton livre, tu le racontes très bien, le nombre de fois où tu pars en opération pour parce qu'il faut détruire des rassemblements d'armes, parce qu'il y a des raisons qui justifient cela, et au dernier moment, à chaque fois, de manière systématique, une fois, deux fois, trois fois, j'ai pas fait le compte, mais on doit être une quinzaine ou une vingtaine de fois.
Une centaine
de fois, et à chaque fois, au dernier moment, alors que les avions arrivent, que Guillaume est là en train de les guider, que la cible est désignée, que tout est propre, que c'est juste faisable, qu'il suffit d'appuyer sur le bouton, à chaque fois, au dernier moment, l'ordre est annulé, 100 fois. Tu me dis à l'instant, je n'avais pas visualisé que c'était aussi souvent. Il faut d'abord se placer dans la position du soldat. Lui, il est là pour accomplir une mission. Et à chaque fois, l'ordre annulé, on place les soldats dans une position impossible. Ensuite, et ça m'a beaucoup frappé à la lecture de ton témoignage, il y a tout ce que ça induit. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance au sein de l'institution elle-même avec des officiers dont certains subodorent qu'ils ont renseigné les Serbes. À un moment, tu tombes dans une embuscade et tu te dis mais qui a dit qu'on allait aller là parce que les Serbes t'attendent dans l'embuscade, mais comment l'information a-t-elle pu fuiter ? Tu t'interroges. Et moi, ce qui me frappe quand je lis tout ça, quand je constate ce témoignage-là, et quand je visualise aussi ce qui se passe à Sarajevo, où l'écart est absolument dantesque entre ce qu'on visualise à Sarajevo, ça passe par une anecdote toute simple, un graffiti écrit sur la poste de Sarajevo, ici c'est la Serbie, qui avait été barrée et remplacée par un imbécile, ici c'est la poste. Voilà, c'était l'enjeu de Sarajevo, c'était la guerre, c'était à cause de ça. Et lorsqu'on est à Paris, à l'Élysée par exemple, et lorsqu'on entendait ce qui était dit, on entendait parler du complot vaticano-germanique. Voilà, le graffiti, ici c'est la Serbie, ici c'est la poste, et à Paris, à l'Élysée, dans le texte, et c'est une citation, le complot vaticano-germanique. Grand écart entre la réalité du terrain et la narration qui en était donnée. Et ce grand écart, on va le retrouver sur le Rwanda, et à chaque fois... Les journalistes vivent à proximité des soldats, ils s'entendent bien, ils s'entendent pas bien, il peut y avoir des algarades, des engueulades, mais bon, tout le monde est dans le même bain néanmoins, donc il y a des échanges, etc., pas tout à fait dans le même bain, puisque nous n'avons pas d'armes, les soldats ont des armes, ils sont là, leur travail c'est de se battre, et ça c'est la règle, nous n'avons pas d'armes, mais néanmoins tout le monde baigne dans le même bain. Et au Rwanda, qu'est-ce qui se passe ? C'est juste incroyable. Le 10 juin 1994, François Mitterrand intervient à Oradour. Ça fait 50 ans que l'Europe est libérée du nazisme. Ce sont des cérémonies très officielles. Le génocide au Rwanda a commencé le 7 avril. Officiellement, c'est la date officielle du début du génocide. Avril, mai, 10 juin. François Mitterrand, célébrant la fin du nazisme en Europe, la fin de la Shoah, évidemment, donc, et dans le registre du plus jamais ça. Il n'a pas un mot, pas un, pour le Rwanda. Nous sommes dans un discours de pure incantation. Et quand je dis pas un, c'est pas un. Et c'est pas qu'il ignore. Il est au courant. L'Élysée suit tout dans le détail. Les renseignements, tout remonte, tout fonctionne. Mais c'est simplement, on ne veut pas voir. Je parle du 10 juin. Lorsque Guillaume parle de Bicicero, nous sommes le 27 juin. Deux semaines à peine d'écart. En deux semaines, il y a un renversement complet de la position française. Brutalement, pour une raison totalement ignorée, d'ailleurs jamais expliquée, parce que nous sommes en France, et donc l'Élysée donne la musique, François Mitterrand intervient et dit « c'est absolument urgent d'aller au Rwanda ». Et brutalement, l'espace de 10 jours, un peu plus de 10 jours, 2500 soldats sont envoyés au Rwanda pour une opération humanitaire. Mais lorsqu'on est journaliste, on voit ça, on le suit, etc., il y a tout de suite un bug. Ce sont des troupes d'élite, ce sont les meilleures troupes françaises. Elles sont dotées, comme on ne les a jamais encore vues dotées, des Macmillan, enfin un armement absolument incroyable sur le terrain. Les journalistes qui ont l'habitude de terrain et qui avaient l'habitude de fréquenter l'armée française n'ont jamais vu des troupes aussi bien dotées. Il y a des mirages qui sont déployés. Des mirages, et nous sommes en Afrique, à côté, des hélicoptères. Enfin, on est sur un truc, mais complètement dantesque. Les forces spéciales qui sont présentes en masse. Et on se dit, mais ça cogne, c'est de l'humanitaire. Mais on envoie des gens dont le boulot, c'est de faire la guerre. Ils n'ont pas un camion pour faire de l'humanitaire, il n'y a rien qui est prévu. Et ça cogne. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on ne comprend pas. Et alors forcément, les militaires aussi sont embêtés, pas parce qu'ils ont des instructions, donc ils peuvent dire, et puis ils ne peuvent pas tout dire, et puis il y a un cadre aussi d'action légale, donc les relations sont extrêmement difficiles. Dans quelques mots, moi je me souviens juste d'une scène, et puis j'arrêtais là, mais à un moment, nous sommes vers la mi-juillet, à Goma, au moment où il y a eu cette espèce de grand exode des gens qui ont commis le génocide, mais qui ont emporté avec eux toute une masse de population, qui elles, des femmes et des enfants qui n'ont pas commis le génocide, mais un peu les bergers du génocide qui ont emporté une immense masse de population avec eux pour se protéger. Nous sommes donc au bord du Rwanda, côté Zaïre, le Congo aujourd'hui. Et je me souviens d'une scène qui marque à l'époque, un officier de relations de presse me dit à un moment, tiens, toi t'es dans ce tas-là, Patrick. Je dis, mais c'est quoi là? Et puis effectivement, il y avait un tas très haut, puis il y avait un tas de coupures, de presse, beaucoup plus petit. T'es dans le tas des gens qui posent un problème. Je me disais, mais c'est dingue. Je pose un problème, mais je ne fais que raconter ce que je vois. Où est le problème? Enfin, je ne comprenais pas. Et on sentait tout du long de cette opération une atmosphère extrêmement tendue. Il y avait des lieux, à Goma, où était placé un des PC de l'opération turquoise, qui était inaccessible à la presse. Pourquoi? Parce que c'était les anciens du Rwanda qui étaient réunis dans ce lieu. C'est-à-dire que de 90 à 93, l'armée française a eu instruction de former, entraîner les troupes rwandaises, la garde présidentielle rwandaise, ce qui a été fait, c'était des instructions des soldats. On oublie, ils l'ont fait. Mais tous ces jeunes qui étaient passés pendant les années 90-93 étaient présents aussi à Turquoise, et forcément ils avaient noué des amitiés pendant toutes ces années-là. Ils étaient présents à Turquoise, mais dans un espace séparé, cloisonné, inaccessible. Moi je me souviens, je me suis présenté pour discuter, on m'a donné le téléphone de campagne à l'entrée de la tente. Bonjour Patrick de Saint-Exupéry, Figaro, je voudrais discuter. Le gars m'a dit « connard » et paf. Voilà, c'était juste une ambiance stupéfiante. Et les bugs sont permanents.
Et justement, moi, je voulais vous poser la question, mais que les gens, si j'imagine, se posent, c'est d'où viennent ces ordres, ces contre-ordres que vous recevez au dernier moment, à chaque fois qu'il y a des frappes, elles émanent, ces ordres-là émanent de qui? Et évidemment, la question suivante, c'est celle des archives. Est-ce qu'il y a ces directives qui sont finalement cachées? Est-ce qu'elle figure quelque part? Est-ce qu'il y a...
Je propose, Christophe, de raconter une livraison d'armes.
Oui, très bien. Mais en fait, avant les livraisons...
dérouler d'où viennent les ordres. Je reprends mon récit. Nous sommes dans la deuxième quinzaine de juillet. Techniquement, le génocide est terminé. Moi, je m'occupe d'opérations d'extraction. Je vais chercher des rescapés dans la zone humanitaire sûre qui est tout sauf sûre. Donc, et je suis très contrarié parce que je n'ai pas réussi, on n'a pas trouvé les rescapés. Et je rentre sur la base de Siongugu, qui est en fait le PC des militaires français dans le sud du Rwanda. Et le commandant adjoint de la base m'attrape à mon arrivée en me disant « Il y a des journalistes qui sont là, il faut absolument que tu détournes leur attention parce qu'il y a un convoi d'armes, je cite, qui part vers le Zaïre. » Je suis consterné, mais comme je ne suis pas très rapide intellectuellement, je ne sais pas faire autre chose que prendre les journalistes, leur raconter trois idioties, et puis regarder le convoi qui passe derrière. Il y a une dizaine de camions qui portent des conteneurs maritimes. Et je suis mécontent. Donc le soir, au briefing, les briefings sont toujours sanglants dans les unités de la Légion étrangère, parce que c'est juste nos vies qui sont en jeu. Donc les briefings sont particulièrement comment dire, la parole est ouverte. Je demande des explications sur ce convoi d'armes parti vers le Zaïre. Le commandant du groupement, avec son adjoint, essaye de m'expliquer dans une cote vraiment mal taillée auquel il ne croit pas une seconde. On livre des armes aux forces gouvernementales qui sont réfugiées, qui se sont débandées au Zaïre, pour leur montrer que la France ne leur est pas hostile et pour éviter qu'ils deviennent un danger pour nous. Ah, je me dis, tiens, donner des armes à des gens pour qu'ils soient moins dangereux pour nous, j'arrive pas à faire le cliquet qui rentre l'un à l'intérieur de l'autre. Ça n'a aucun sens, vos trucs. Et à ce moment-là, je comprends qu'ils appliquent une directive qui est du plus haut niveau de l'État. Parce que c'est pas un officier de l'armée française qui décide de donner des armes. Et en plus, ces armes, c'est pas les armes, comme je l'ai cru pendant longtemps, qui avaient été confisquées à la sortie du territoire rwandais. C'était des armes qui avaient été livrées auparavant, donc sans doute pendant le génocide, par container entier. Et ces armes ont été abandonnées au Rwanda par les forces qui étaient en débandade. Et comme il fallait trouver un transporteur pour les rapporter à ces soldats pour qu'ils continuent à faire la guerre, et on a donné l'ordre à l'armée française de le faire. Et nous, on l'a fait, on a essayé de trouver des prétextes pour expliquer cette connerie inimaginable. Et ce que je trouve absolument hallucinant, c'est qu'on a réussi non seulement à intervenir dans le dernier génocide du XXe siècle sans jamais s'en prendre aux génocidaires, mais on a réussi à livrer des armes à des génocidaires avérés. On est juste à la fin du génocide, donc celui qui n'a pas compris que c'était des génocidaires, il est grave. On est sous mandat humanitaire,
il y a un
embargo de l'ONU, et on les livre dans des camps de réfugiés. Ça veut dire qu'on militarise ces camps qui vont devenir les bases armées de la rébellion, enfin de l'opposition aux troupes de Paul Kagame. Et le nouveau gouvernement rwandais va passer 20 ans à essayer d'éradiquer ces camps de réfugiés en se battant contre eux et en ensanglantant tout l'Est zaïrois. Voilà. C'est ça qu'on a fait. Et ça, c'est indéfendable. Alors je comprends pourquoi cette politique ne peut pas être affichée, parce que j'aimerais savoir quel esprit malade arriverait à défendre une action de ce type. Néanmoins, on est dans une démocratie, et je pense que ce serait la moindre des choses qu'on explique au moins pour quelles raisons on avait essayé de faire ça. Mais quand j'ai raconté ça, j'ai été très durement démenti. Alors, démenti, je ne cite même pas par des chefs militaires, mais comment voulez-vous qu'ils disent le contraire ? D'accord, c'est 20 ans qu'on leur demande de raconter ça. Donc, du jour au lendemain, ils ne vont pas dire « bah oui, je vais vous dire, j'ai menti pendant 20 ans, en fait, l'autre, là, ce qu'il raconte, bah, c'est un peu la réalité. Voilà, » c'est juste pas acceptable. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un des hommes clés de cette opération, comment aller au plus haut niveau de l'État, c'est sans doute le secrétaire général de l'Élysée. D'accord. D'une part, il file devant la commission de la Défense nationale parce qu'il a entendu qu'il y a des députés qui aimeraient bien m'auditionner. Et il vient leur dire deux choses qui sont dans le rapport, enfin dans le compte-rendu d'avril 2014. Primo, bien sûr qu'il y a eu des livraisons d'armes. Vous n'allez pas m'emmerder avec ça. Ça n'a aucun rapport avec le génocide. Et le raisonnement, c'est pas parce qu'on livre des armes à des génocidaires qui vont s'en servir pour commettre un génocide. C'est évident, il suffit de le dire. Puis c'est comme ça. Et la deuxième chose, c'est que l'autre, là, Guillaume Ancel, qui vient raconter ce qui s'est passé, il a été démenti par ses chefs. Démenti, c'est un menteur. Et ses chefs, de toute façon, ils sont sous mes ordres. Vous croyez qu'un député qui se lèverait pour dire « Attendez, comment vous pouvez nous raconter un truc pareil ? Au moins qu'on auditionne. » Ah, pardon, j'ai oublié le troisième argument qui est fatal. Ce capitaine ne connaissait pas la mission qu'il devait effectuer. Alors ça, vous voyez, dans l'armée, ce serait très grave, parce qu'en opération, ce sont les capitaines qui mènent les opérations. Donc s'ils ne connaissent pas les opérations qu'ils doivent mener, c'est un sacré problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un homme qui sait pertinemment ce qui s'est passé et qui refuse d'en parler. Alors il se trouve qu'un an après, je le vois à l'université d'été du PS. Je vais lui offrir mon livre. Je suis accompagné de camarades, de PS. Et il me dit, il est extrêmement gêné de ce dialogue. Il me dit, il faut que vous compreniez que, en fait, notre politique au Rwanda, celle qu'on n'a jamais expliquée, c'est qu'on a essayé d'obliger les factions à négocier. Et c'est pour ça qu'on a soutenu ce gouvernement jusqu'au bout. Moi, ce genre de raisonnement m'agace quand il n'a aucun rapport avec la réalité. Je dis d'accord, c'est ce qui explique les livraisons d'armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés sous mandat humanitaire. Et là, il se bloque. Et il me dit dans une formule que je trouve absolument inouïe, mais je pense qu'il s'est égaré à ce moment-là, Il me dit, je ne suis pas au courant des détails. Alors, on va faire un nouveau saut dans le temps. Et on est maintenant en 2015. Le président François Hollande annonce l'ouverture des archives sur le Rwanda. C'est quelque chose qui est extrêmement attendu par de très nombreux historiens, notamment spécialistes. Et finalement, vont être déclassifiés quelques dizaines, quelques centaines de documents qui sont pour la plupart connus des spécialistes. L'essentiel reste dans les cartons. C'est le sujet de l'article que tu as écrit dans la revue 21, Patrick. Pourquoi ces cartons restent fermés?
Parce qu'on en arrive au point à évoquer d'où viennent les ordres et comment cette musique est donnée. Pratiquement, qu'est-ce qui se passe en avril 2015, donc 21 ans après les événements de génocide des Tutsis du Rwanda, l'Élysée annonce de manière un peu soudaine, c'est un peu inattendu, que les archives sur le Rwanda vont être ouvertes. Formidable, tout le monde trouve ça très bien. Il y a une grosse discussion aussi, parce que ça intéresse non seulement les historiens, mais ça intéresse aussi beaucoup d'associations. Il y a un nombre extrêmement conséquent de gens qui suivent ce dossier de tout type. Il y a beaucoup de milieux associatifs qui travaillent beaucoup là-dessus, et ça intéresse aussi la justice française, parce qu'il y a aussi des procédures qui sont extrêmement ralenties par la difficulté d'accès aux documents. Et la justice française a beaucoup de mal à disposer des documents disponible en France relatif au Rwanda. Donc cette annonce suscite beaucoup d'intérêt. Et puis rien, comme l'a dit Christophe, 83 documents rendus publics, hein, si je ne me trompe pas, un peu plus de 80, qui n'ont aucun intérêt, qui sont connus. Il y a un menu de réception du président Habyarimana à l'Élysée, on a le menu du déjeuner. Voilà, c'est le type de document qui est rendu public après cette annonce assez quand même tonitruante compte tenu du poids du dossier par l'Élysée. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'annonce a été un peu mal calculée. Et donc, après que cette annonce a été réalisée, les gens qui pensent à l'Élysée se disent ce serait quand même bien qu'on sache un petit peu mieux quand même ce qu'il y a dans les archives. Et donc, deux hauts fonctionnaires sont nommés, sont désignés pour aller explorer ces archives. Et ils vont les explorer, ils vont rendre un rapport, et voilà, la boîte de Pandore va être fermée. Pratiquement, un de ces hauts fonctionnaires, plusieurs mois plus tard, va parler devant un cercle restreint, va raconter un peu cette plongée dans les archives de manière hasardeuse, improbable, sans aucune intention. On n'est pas dans la dénonciation, on n'est pas dans la volonté de régler des comptes, on est juste dans le poids du secret. Et à un moment, lorsqu'on porte un secret, parfois, le hasard, la vie, on s'en libère comme ça dans une circonstance totalement improbable. Et c'est ce qui va se passer. Et qu'est-ce que va raconter ce haut fonctionnaire, habilité au secret, enfin voilà, en termes des niveaux de responsabilité importants, il va raconter ce qu'il a trouvé dans les archives. Il va trouver plusieurs choses. Il va d'abord trouver un premier élément. Ces ordres ont été donnés de réarmer ceux qui viennent de commettre le génocide alors qu'ils sont en train de s'enfuir vers le Zaïre. Bon, de l'Élysée, bien entendu. Là, on en arrive au cœur du pouvoir, au cœur de la France, à ce côté régalien, qui est quand même une des particularités de la France en Europe, à cette gestion particulière qu'a l'Élysée sur la politique étrangère d'une manière générale, sur la défense et sur un certain nombre de domaines qu'en France on appelle les domaines réservés, parce que le Parlement y a très difficilement accès. Et ça fait partie de la tradition française, c'est l'histoire de la France. Et donc l'Élysée, un ordre va être donné par l'Élysée de réarmer ceux qui viennent de commettre le génocide, raconte ce haut fonctionnaire. Et il poursuit. Il cite, il dit, et je lis aussi un certain nombre de demandes de droits de retrait formulées par des soldats qui disent ne pas vouloir obéir à cet ordre. J'avoue qu'on les comprend un petit peu, quoi. On dit à des soldats, donner des armes à des gars qui viennent de commettre un génocide. Leur réserve est un petit peu compréhensible. Et puis il dit, on sent bien dans ce récit, je ne l'ai pas appris par cœur, mais les citations sont extrêmement précises, et puis il poursuit sa narration, et puis on sent qu'il y a un guidonnage dans les cercles du pouvoir. Et donc, à un moment donné, il va y avoir la confirmation de cette directive. Pas parce qu'il y a des remontées de terrain qui disent, des gens ne veulent pas, etc., qu'est-ce qu'on fait? Et l'ordre est finalement confirmé, la directive est confirmée. Et le signataire raconte toujours le haut fonctionnaire de la confirmation de cette directive est Hubert Védrine, le secrétaire général de l'Élysée. D'un point de vue pratique, comment ça fonctionne à l'Élysée ? Le secrétaire général est un peu le go-between entre le président, le chef de l'État, l'état-major particulier, la cellule Afrique, les ministères, etc. Et le secrétaire général, son boulot, c'est de faire le go-between. Ça passe par des notes qui montent et qui descendent, qui sont griffonnées. Hein. Quand je dis signé, c'est HV, la signature du Berberi, et qui parfois rajoute un petit commentaire. Dans l'enquête, il y a un certain nombre de cas de ces notes griffonnées par Hubert Védrine. Il y a un épisode qui est assez aussi étonnant parce que nous sommes en cohabitation hein, pendant le génocide. Et donc, à un moment, je n'ai plus la date exacte en tête, une dépêche Reuters annonce que Paris voudrait arrêter les extrémistes, le gouvernement extrémiste responsable du génocide. Et pareil, en marge de cette note, petite annotation signée Hubert Védrine. Lecture du président, ce n'est pas ce qui a été dit au Conseil des ministres. Voilà. Précision ultérieure d'Edouard Balladur, alors Premier ministre, dans une lettre officielle, pour François Mitterrand, il était hors de question de châtier les auteurs du génocide. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est que nous sommes dans un pays où un Premier ministre vient dire à un chef de l'État que celui-ci refuse de faire justice dans un cadre juridique qui est le crime des crimes, qui est imprescriptible, qui est condamné avec la plus grande force par toutes les instances internationales. Ce document est officiel, il ne provoque aucune réaction. Moi, ce que je pense profondément, hein, c'est que cette histoire du Rwanda interpelle bien entendu le politique, le premier chef, mais je crois aussi que cette histoire nous interpelle un petit peu. Un petit peu, pas parce que cette politique était secrète. Donc on ne nous a rien dit, il n'y a pas eu de discussion au Parlement, c'était une politique secrète qui a été menée de 90 jusqu'à aujourd'hui, hein, puisqu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à savoir. Mais voilà, cette politique a beau être secrète, a beau avoir été secrète et rester secrète, il n'en reste pas moins qu'il y a eu relativement peu de demandes pour l'éclaircir, etc. Et que ça doit nous poser question, mais surtout ça ne doit pas nous empêcher de poser la question du politique, parce que si l'on essaye de résumer le problème de fond du Rwanda, c'est que le politique, et pour le nommer, l'Élysée, a compromis l'armée française, par un certain nombre de directives où les soldats français ont été placés dans des positions impossibles, juste impossibles. Après, on peut faire tous les procès qu'on veut, mais voilà, à la base, il y a quand même ce constat de la position impossible. Donc, le politique, l'Élysée, a compromis l'armée française et entaché l'honneur du pays. Moi, je crois que c'est aussi simple que ça.
Alors, avant de passer la parole au public, moi, j'ai une dernière question à poser à Guillaume, justement sur cette situation impossible des soldats français. Parce que tu as fait deux récits d'impuissance, un premier à Sarajevo, un deuxième au Rwanda. Comment les soldats et les officiers vivent cette situation-là et pourquoi ce silence ?
Je vais raconter une histoire. Tu me laisses 3 minutes.
Je te laisse toute liberté.
Merci. J'allais publier le vent glacial sur Sarajevo un mois après. Et au cours d'un nocturne du Louvre, je rencontre un de mes camarades de la Légion étrangère qui était avec moi à Sarajevo, que je n'avais pas revu depuis 22 ans. Alors j'ai eu un peu de mal à le reconnaître, heureusement lui aussi. Et simplement, je lui dis, alors il porte le nom d'un vent glacial en plus. Appelons-le Denis. Et je dis, Denis, il faut absolument que je te raconte, je vais publier un récit authentique sur ce qui s'est passé à Sarajevo. Et je sens qu'il n'a pas très envie d'en causer plus que ça vient de passer général. Et ça l'ennuie. On prévoit un déjeuner, il me pose un magistral lapin, mais moi je ne me laisse pas décourager par les lapins. Et donc je l'oblige à venir à l'écritoire, place de la Sorbonne, pour discuter. Et cette fois, il arrive à l'heure. Et pendant une demi-heure, mon camarade, que je n'ai pas revu depuis 22 ans, m'explique qu'il ne s'est rien passé à Sarajevo. Je ne comprends pas pourquoi je veux écrire quelque chose, puisqu'il ne s'est rien passé à Sarajevo. Je suis troublé, hein, parce que quand même, voilà, un témoignage, c'est d'abord un exercice de mémoire. Donc je commence à me dire, waouh, et au fond, ce que je raconte, si ce n'était pas le fruit de... Je ne sais plus très bien quoi penser quand il demande une deuxième bière, il s'est passé exactement une demi-heure. Et à ce moment-là, il change radicalement de discours,
Elle me dit, Guillaume, Sarajevo, ça a été le contre-exemple de toute ma carrière. C'est le benchmark de ce qu'il n'a jamais fallu refaire. Je me suis toujours servi de Sarajevo comme surtout le truc qu'il fallait absolument éviter. Un cauchemar. Je me dis un cauchemar. Là, tu as fait la même chose que la première demi-heure. Et moi, je me mets à souffler. En disant, ça va, je ne suis pas encore devenu complètement amnésique comme beaucoup de mes camarades. J'ai eu raison de raconter ça. Et il m'explique dans le détail la manière dont au Mali, en Afghanistan, enfin toutes les opérations auxquelles il a participé, il a gardé en mémoire Sarajevo comme étant le truc qu'il ne fallait jamais accepter. Et puis on a passé une heure ensemble, on quitte la consultation, on part, on descend le boulevard Saint-Michel, je le raccompagne à 100 mètres. Il fait nuit, je pense qu'il se sent libre. Alors que jusqu'ici, je le sentais assez tendu, malgré tout. Est-ce que je vais utiliser ses propos? Est-ce que je vais le citer? Est-ce que je l'enregistre? Voilà toutes les questions qu'il a pu se poser, en général dans les régions étrangères. Et là, il a l'assurance qu'il n'y a personne autour de nous. Il m'arrête, il me regarde dans les yeux, il me dit, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. En fait, je n'ai jamais pu parler de Sarajevo en 22 ans.
C'est un résumé. Merci. Et maintenant, je vous donne la parole. On a encore un bon quart d'heure donc, pour vos questions.
Bonjour. Je me présente. Je suis Pierre Brunet. Je voudrais intervenir à deux titres en tant qu'ancien humanitaire, ou toujours humanitaire d'une certaine manière. J'étais moi aussi au Rwanda et à Sarajevo en même temps que vous. J'ai enchaîné, pareil, le Rwanda et Sarajevo. Je suis aujourd'hui romancier. Cette soirée me tient à cœur, c'est un peu hasard, je ne l'ai pas fait exprès. Je sors à la rentrée, hein, vraiment, je ne suis pas là pour parler de ça, mais pour vous expliquer pourquoi ça me tient à cœur. Un roman sur l'affaire de Bicesero, justement, qui m'habite depuis des années. Bicesero, Patrick de Saint-Exupéry le sait beaucoup mieux que moi, c'était un huis clos. Moi, j'étais au Rwanda, on est arrivé en juillet, et on ne savait pas ce qui s'était passé là-bas. Dans les collines, et en fait, ce sont les militaires français, ceux qui se sont perdus, c'est-à-dire l'adjudant-chef du GIGN et le commando Trappel, les hommes du commando Trappel qui ont fait exprès de se perdre, qui ont fait en sorte qu'on a su, après ce qui s'était passé à Bicesero, parce que ce massacre hallucinant de 40 000 personnes au début, qui étaient 2000 le 27 et qui n'étaient plus que 800 le 30, aurait totalement pu passer inaperçu s'il n'y avait pas eu au fond. Ce dernier sursaut des soldats français qui ont décidé, trois jours après, de faire semblant de se perdre. Donc voilà, je trouve que c'est déjà quelque chose d'hallucinant. Je vois un parallèle entre le Rwanda et la Bosnie, c'est qu'il y avait, au niveau des officiers supérieurs et des politiques, un logiciel qui tournait, qui était qu'on n'abandonnait pas ses anciens alliés. Pour Sarajevo, c'était les Serbes qui avaient été nos alliés en 14-18, donc il y avait cette idée que c'était eux qui devaient toujours être nos alliés, d'ailleurs c'était eux qui avaient encore une vraie armée. Et pour le Rwanda, c'est encore pire, parce que d'une certaine manière, les officiers français s'étaient battus au Rwanda, parce que les officiers français, avant l'opération turquoise, il y avait l'opération Norwa et Amaryllis, avaient non seulement encadré et formé, mais s'étaient battus parfois en première ligne contre les rebelles du FPR, et pour eux, c'était aussi leur guerre. Et c'est Patrick de Saint-Exupéry, d'ailleurs, qui m'a aidé à comprendre ça. Ça a été une défaite française, d'une certaine manière. L'avancée du FPR et la prise de Kigali, ce qui explique en partie la non-envie d'une grande partie de l'état-major français de l'opération turquoise d'aller soutenir ces Tutsis qui osaient encore résister dans les collines de Bicesero. Bon, je ne vais pas plus parler de l'affaire de Bicesero. Patrick de Saint-Exupéry la connaît mieux que moi, même si elle m'a habité pendant deux ans. Je voudrais simplement revenir sur la Bosnie. Je crois que vous avez raison, Monsieur Ancel, on était ensemble à ce moment-là. Enfin, on ne s'est pas croisés, ou sans le savoir. Je crois que vous avez raison au niveau de l'attitude de l'armée française s'agissant des officiers supérieurs. Et ce qui m'a frappé à Sarajevo, c'est que les sous-officiers et les soldats, ceux qui aidaient les gens à traverser les rues derrière les VAB, qui faisaient les allers-retours en permanence, les équipes anti-sniping qui prenaient parfois des risques pour aller descendre des snipers serbes, eux savaient très bien qui était, on ne va pas parler de bons et méchants, mais qui était le véritable ennemi et qui tirait sur des vieilles femmes qui faisaient la queue pour avoir de la flotte ou des gosses. Donc je crois que dans cette armée française, il y avait des officiers supérieurs, et il y avait beaucoup de gens, moi j'ai vu beaucoup de gens à Sarajevo, des sous-officiers, des soldats du rang, qui étaient conscients quand même de ce qui se passait et essayaient au maximum, au jour le jour, au quotidien, de faire ce qu'ils pouvaient malgré les ordres. Une dernière chose sur la Bosnie, on peut effectivement parler de Sarajevo, des ordres, de ces missions annulées au dernier moment, de cette instruction non dite mais permanente de ne pas s'en prendre au cerf, mais il y a quelque chose peut-être d'encore plus grave. Je pense à Srebrenica, par exemple, et l'action du général, ou la non-action du général Janvier, qui n'a toujours pas, à ce jour, été exploré, si je puis dire, expliqué. Comment se fait-il... Pardon ? La question du général Janvier. Comment se fait-il que le général Janvier, qui était à ce moment-là en charge des frappes aériennes, n'ait pas, et alors que les avions étaient prêts à partir, n'a pas empêché la poche de Srebrenica de tomber, a empêché les frappes aériennes, alors qu'on avait dit que c'était une zone de sécurité qui serait protégée pour toujours par l'ONU, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, parce que les Serbes étaient déjà entrés dans la ville.
Je vais répondre de manière courte. Puisque
oui, en quelques mots, parce que j'ai beaucoup d'autres questions.
J'ai été sollicité pour aller déclencher des frappes aériennes autour de Srebrenica. Ça faisait 6 mois que j'étais à Sarajevo. Au passage, je le dis, toutes les 2 heures, on faisait passer des avions de reconnaissance pour prendre des photos sur les massacres. Les Serbes ne s'en cachaient même pas. Elles n'ont même pas cherché à se mettre dans des usines, dans des bois, ils le faisaient en plein air, pour bien nous montrer qu'ils avaient l'autorisation de massacrer la population. Ils l'ont fait sous nos yeux. Moi, quand on m'a sollicité pour partir, j'ai dit, vous plaisantez ? Ça fait 6 mois que je suis à Sarajevo, qui est une zone protégée. On m'interdit tous les jours de frapper sur les canons serbes. Et vous allez me faire croire qu'on va aller frapper sur les Serbes à Srebrenica ? Je risquerai même pas la vie d'un de mes collaborateurs.
Voilà. C'est pas docile. C'était ridicule. On savait très bien qu'on n'irait pas se battre à Sarajevo. C'était une évidence. Et quand vous dites qu'on est arrivé au bout, parce que ça a été quelque chose de qualifié par l'ONU d'ailleurs, de massacre, de génocide, enfin, à Srebrenica. Moi, je vais vous citer un autre exemple. Je raconte dans mon livre un général français qui, pris dans cette contradiction de « il faut protéger les agresseurs serbes à tout prix », et nous a donné l'ordre de laisser tuer des légionnaires. Et, en parallèle, de rapatrier son fils, qui était dans notre unité. Et je pense que ces situations rendent fou. Il n'y a que la folie qui peut expliquer un tel comportement. Voilà. Là, vous êtes au fond du puits de l'absurdité.
Oui. Bonjour. Bonsoir. J'ai une question pour le patron de Saint-Exupéry. Juste avant, je veux simplement rappeler qu'aujourd'hui, au Rwanda, à Bicécéron, on commémore le 23e anniversaire, entre guillemets, du génocide des Tutsis. Ça tombe le 27 juin, c'est pas un hasard. Ma question est la suivante. Avec le président Macron qui a réussi à éliminer les deux partis qui étaient au pouvoir à l'époque du génocide, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une évolution, sachant que selon la lettre du continent de mai 2017, Hubert Védrine ferait toujours partie des éminences grises sur l'Afrique du président Macron?
Que vous dire? Je n'en sais rien. Mais quand je dis je n'en sais rien de rien. Moi, je pense, enfin, et je ne peux pas le dire autrement, il y a une chose qui est au cœur, enfin, toute simple, qui je pense est nécessaire de rappeler. La Shoah n'est rentré dans la mémoire de l'Europe européenne qu'avec le procès Eichmann. Il a fallu 20 ans avant que l'on commence à s'apercevoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'était passé un truc vraiment particulier. Il y a un mot aussi que je cite très souvent parce que je le pense très juste et très profond d'un écrivain sénégalais qui s'appelle Boris Boubacar Diop. La mémoire d'un génocide est une mémoire paradoxale. Plus le temps passe, moins on l'oublie. Je pense que, voilà, ces mécanismes-là, si vous voulez, un génocide, c'est une extermination, on n'a pas été dans les chiffres, mais juste pour donner une idée de l'ampleur de ce qui s'est passé au Rwanda, et sans rentrer dans le détail, c'est 800 000 morts à minima en 100 jours. En termes d'efficacité, nous sommes sur un taux d'efficacité 2 fois supérieur au plus élaboré des camps d'extermination nazis. Treblinka. Voilà. Il s'est passé quelque chose au Rwanda, mais de sidérant, de soufflant, d'incroyable, au sens strict du terme. Nous sommes dans l'exploration et dans la réalisation, toujours, hein, 23 ans plus tard, de cet événement-là, que beaucoup d'entre nous, qui avons pu le voir à l'époque, à la télévision, en entendre parler, n'ont pas capté, parce que ça va tellement vite, parce que c'est tellement loin, parce que c'est parfois aussi tellement mal expliqué, parce que aussi il y a toutes ces déclarations politiques, il y a ces lectures qui sont imposées, parce qu'il y a tellement de choses qui ressortent à ces occasions-là. Il faut se souvenir de ces années 90-94, c'est des années absolument incroyables. Il y a le Rwanda, il y a Sarajevo, il y a la première guerre du Golfe, il y a la cohabitation, et puis il y a aussi toutes ces résurgences mémorielles. Nous sommes, je le disais, 50 ans, le marqueur de 50 ans de la fin du nazisme en Europe, mais aussi la résurgence des affaires Bousquet, Touvier, Papon, la première intervention de François Mitterrand au Valdives, où il va au Valdives dans ses années 90, il se fait huer par le public, huer, qui honte, 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 disent les gens, cette intervention de Badinter, incroyable, qui vient dire respect, parce que la mémoire oblige, même si, etc. Nous sommes dans des années absolument incroyables. Tout fait collusion, tout fait sens. Et le Rwanda déboule là-dedans, fait écho. Et il se produit une sorte de collapse absolument stupéfiante. Voilà. Après, et on en vient, à chaque fois on en revient à ça, hein, et ça, le politique est au cœur. Et ça, c'est vraiment la particularité de l'histoire de la France. Ce côté régalien, ce côté où tout se joue à l'Élysée. Et c'est là où la difficulté de votre question, et pour y répondre, nous n'avons aucune clé ou aucun rien qui permette de donner une indication, une direction. Parce qu'on connaît bien l'entre-soi des politiques, les luttes d'influence, je me rapproche d'eux, je joue ceci contre cela. Enfin, tout le monde connaît ce genre de jeu. Hubert Védrine est quelqu'un d'intelligent comme bon nombre de responsables politiques. La seule chose que l'on peut noter, et je ne sais pas s'il faut en déduire quelque chose, c'est que Macron est le seul homme politique qui ait fait un tweet à l'occasion du 7 avril, qui est le jour qui marque la commémoration du génocide des Tutsis. C'est le seul homme politique qui l'a fait cette année. Voilà. La deuxième chose que l'on peut noter, mais après, moi, je ne peux pas, à partir de là, tirer une conclusion, c'est que lors de son discours à Oradour-sur-Glane, le 10 juin dernier, il a prononcé, à Oradour-sur-Glane, le mot Rwanda. Voilà. Deux petits faits. Que déduire de cela ? Je n'en sais rien. Simplement, je sais que la discussion sur le Rwanda en France est toujours d'une extrême difficulté. J'ai vu des choses absolument incroyables. On parle beaucoup de BCCRO. Vous aviez raison de rappeler qu'aujourd'hui, ça fait exactement 23 ans que ces rescapés de BCCRO ont été découverts et abandonnés pendant 3 jours. Voilà, pour dire les choses comme elles sont. C'est aujourd'hui, maintenant. Tu veux intervenir, Amir.
Oui, juste une chose. J'ai pas beaucoup de certitudes, mais ça, j'en suis persuadé. Si ces responsables politiques, on a cité Hubert Védrine, il y en a d'autres sur le Rwanda et sur la Yougoslavie, voilà, je ne peux pas imaginer qu'un seul homme a toute cette responsabilité. S'il n'avait pas eu ce sentiment d'impunité, si une seconde, il s'était dit un jour, je devrais me justifier de ce que je suis en train de décider, il n'aurait jamais mis en mention manuscrite d'un rapport d'officier disant c'est inacceptable d'aller livrer des armes à des génocidaires dans un camp de réfugiés. Il n'aurait jamais osé écrire « non, virgule, appliquer la directive ».
Voilà, donc, que préjuger du politique aujourd'hui, je ne sais pas.
Qui veut poser une question ?
Oui, pardon.
Salut, c'est une journaliste. Une question pour vous, monsieur. Est-ce que vous êtes senti en danger ? Quel genre de courage il faut quand on est militaire pour oser dire toutes ces choses qui sont extrêmement sensibles et politiques ? Et est-ce que vous avez reçu des menaces ou est-ce que vous êtes senti en danger physiquement, enfin pour votre sécurité physique ?
Bon, très honnêtement, je ne me suis pas senti très courageux par rapport aux officiers qui, à l'époque, au Rwanda comme à Sarajevo, ont osé rapporter au plus haut niveau à leur hiérarchie que ce n'était pas acceptable de continuer. Moi, je me suis contenté de râler comme un putois sur place. J'ai été peu écouté. Les débats à l'intérieur de l'armée sont souvent assez difficiles. En fait, ce qui est étonnant, c'est que dans l'armée, on a une grande capacité à débattre entre nous à condition qu'il n'y a rien d'écrit et que rien ne soit exporté. Voilà. Donc, j'ai eu le sentiment d'avoir plutôt une grande liberté de parole, même quand j'étais en contradiction totale avec la politique qu'on nous demandait d'appliquer. Quand j'ai quitté l'armée, je n'étais plus soumis à l'obligation de réserve,
j'ai longtemps hésité à témoigner sur le sujet. Pour une raison simple, qui est idiote, c'est que je croyais que tout était su. Je croyais, d'ailleurs après des contacts avec des journalistes, qu'au fond, les sujets sur le Rwanda, comme Sarajevo, étaient parfaitement connus et documentés, qu'en gros, mon témoignage n'apportait rien. Et c'est accidentel le fait que je réalisais qu'en fait, mon témoignage remettait en cause la version officielle. Parce que j'ai témoigné dans un colloque qui était présidé par quelqu'un qui avait été très très proche de la mission parlementaire d'information, je n'ai pas le droit de citer, mais vous devinerez qui c'est, et qui m'a enjoint de ne pas témoigner sur le sujet, parce que mon témoignage pouvait troubler la compréhension des Français sur ces événements dramatiques. Et en fait, j'ai réalisé deux choses à ce moment-là. D'abord, j'avais dépassé le demi-siècle, et que largement l'âge qu'on me donne des ordres. Et la deuxième chose, c'est que entendre ça dans une démocratie est juste inacceptable. Et je me suis permis de lui dire, il a très mal pris, que son problème, c'était pas mon témoignage, c'était le fait que sa version était plus romancée qu'en libre.
D'autres questions?
Donc je n'ai pas répondu aux questions des menaces.
Absolument.
Bonjour, je suis rwandais et en même temps français. Juste pour vous dire merci parce que vous avez une approche. Votre combat, c'est au nom de la démocratie française. C'est au nom du pays, de notre pays. Ce n'est pas comme d'autres qui font effectivement, qui vont aider, secourir les pauvres Africains qui ne savent pas effectivement se défendre eux-mêmes. Juste pour vous dire ça, juste une question quand même, parce que c'est vrai que vous déplorez le manque de démocratie quand il s'agit de la politique étrangère en France. Il n'y a que l'Élysée, en fait, qui décide. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on laisse faire, et pas que depuis avant-hier au Rwanda, au Sarajevo, depuis très longtemps? Est-ce que c'est au nom des intérêts bien compris de la France? Parce que c'est ça le problème. Hein, ça s'est passé, ça fait combien de siècles? On va mettre 500 ans, 5 siècles, disons, dans d'autres pays, c'est pas que la France. Hein. Et moi, en tant que Français, je me dis, tiens, bon, il n'y a pas que nous. Hein, y a d'autres peuples. Et aux États-Unis, ailleurs. Donc, pour la compréhension générale, est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement élargir le champ d'investigation et même le lieu et le temps? Je vous remercie beaucoup.
Alors, pour répondre à votre question, le champ d'investigation est effectivement élargi, puisque là, le Rwanda, c'est un récit d'un dossier de 21, dans lequel nous retraçons aussi, il y a trois récits qui composent chaque dossier. Donc, il y a un premier récit qui revient sur Tiaroy, Sénégal. Nous sommes à la libération, à la fin de la guerre, dans les années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est
décembre 44,
merci. Et c'est un des premiers marqueurs de la difficulté de la relation de la France avec l'Afrique, puisque un certain nombre de tirailleurs sénégalais démobilisés, anciens prisonniers de guerre en France, sont rapatriés à Tiaroy. Ils vont manifester pour avoir leur solde, mais ils vont être tués. Un certain nombre, 40 officiellement, 70, et sans doute beaucoup plus. Et ça reste une des histoires qui pèse sur la relation entre la France et l'Afrique. Il y a un deuxième récit qui revient sur un épisode qui demande encore à être connu, même s'il est connu. Lorsqu'on travaille et on enquête dessus, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. C'est le Biafra. En gros, et en résumé, le Biafra, qu'est-ce qui s'est passé? Paris a inventé un génocide. Quand je dis Paris, hein, c'est les services, l'armée, etc. Le mot génocide est utilisé dans une logique de propagande. Et puis il y a le Rwanda, où là, Paris a dénié, a nié le génocide. Et on voit tout au long de cette évocation, avec trois points d'ancrage historique, 44, le Biafra, le Rwanda, la permanence et la continuité d'une politique française par rapport à l'Afrique. Maintenant, le pourquoi. Le pourquoi, je ne vais pas répondre au pourquoi, parce que je ne suis pas responsable politique. En revanche, ce que je peux faire en tant que journaliste, c'est citer les responsables politiques, expliquant le pourquoi. Et la raison donnée, le plus fréquemment invoquée, le plus fréquemment par Hubert Védrine, en l'occurrence, hein, puisque c'est quand même quelqu'un responsable politique et qui revendique un certain rôle, un certain poids, donc autant lui redonner des mots, il parle très régulièrement de l'engagement pris par la France j'ai oublié le mot exact qui est dans le récit, c'est le pacte de stabilité pris par la France avec le précaré. Et il le répète en permanence, il le répète pour justifier la politique menée par l'Élysée au Rwanda, c'est au nom du respect des engagements pris par la France vis-à-vis des pays alliés en Afrique, ce qu'on appelle le précaré. La difficulté de cela, c'est que, pourquoi pas, peut-être, hein, mais quel est ce pacte? C'est très simple. Paris assure un certain nombre de régimes, la permanence, la garantie sécurité, quoi qu'ils puissent faire, ils vont durer et il n'y aura pas de problème. Tant que ça se voit pas trop, mais on sent que le pas trop est quand même assez large. Et en revanche, il y a une relation qui est extrêmement privilégiée, ce qui est toujours utile pour les votes à l'ONU, ça fait des voix à l'ONU supplémentaires, etc. Voilà le pacte. Et ce pacte-là est un engagement global, dit Hubert Védry. Et c'est là où on en arrive au Rwanda, et il explique très régulièrement, si jamais au Rwanda le régime tombait, ben ce pacte-là risquait d'être mis globalement en cause à travers l'Afrique. D'où ce choix de soutenir, dit-il, hein, moi je ne fais que citer, ce choix de soutenir un gouvernement en train de commettre le pire, l'irréparable, au-delà de toute raison. Mais c'est absolument ahurissant, parce que l'on constate que ce gouvernement qui a commis le génocide, malgré le soutien apporté par l'Élysée, est tombé. Et ça n'a pas eu la moindre conséquence sur les autres pays liés en Afrique, liés à la France, par ce même pacte. Donc, la question est toute simple. Un aveuglement jusqu'à la folie, parce qu'on ne veut pas voir, une justification qui n'en est pas une, et un échec incroyable, un génocide, le dernier génocide du XXe siècle. Cette politique qui a été menée est simplement une faillite. Et cette faillite, nous l'avons sous les yeux.
Et aussi, je dirais, le Rwanda, tout petit soit-il, est d'autant plus important pour la France qu'il ne fait pas partie traditionnellement du précaré français. Depuis Giscard d'Estaing, avec l'opération Colvézi au Zaïre, il y a vraiment la volonté d'accroître l'aire d'influence française aux anciennes colonies belges.
Si tu permets, je pourrais juste rajouter une chose. Parce que pour moi, c'est un élément qui est important, même s'il n'est pas central sur ce sujet de démocratie. C'est la culture du silence. La culture du silence, c'est le propre de l'armée française. La tradition dans les armées britanniques et américaines, par exemple, c'est qu'après une opération, d'abord dans les 5 ans, les archives sont ouvertes. Et ça, c'est une loi. Donc c'est compliqué de raconter des cracks trop longtemps. Et surtout, les militaires racontent leur opération. Alors souvent, c'est pas terrible. Hein. Honnêtement, les autobiographies des militaires, on a l'impression que c'est des auto-justifications sans fin. Bon, j'espère que j'ai pas fait ça. Je rigole pas. Mais en France, cette culture du silence qui a été inculquée depuis des décennies dans l'armée française, c'est une confusion complète avec le secret professionnel. En opération, il est interdit de divulguer bien sûr ce qui se passe. C'est juste l'obligation de réserve, c'est normal. Par contre, 20 ans après, raconter la réalité de ce qu'on a fait, c'est juste apporter un témoignage en contrepoint de versions officielles qui sont fabriquées par les gens qui ont pris les décisions. Donc voilà, il faut juste sortir de ces espèces de fables communicantes qui nous endorment parce qu'en gros, on n'a rien pour l'éclairer sous un jour différent. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que mes camarades prennent la plume. Enfin, c'est un exercice extrêmement difficile. Moi, j'ai eu la chance d'être aidé par une de mes filles qui est éditrice, sinon je pense que je n'aurais jamais osé écrire. Mais c'est quand vous écrivez que vous apportez un témoignage qui est complètement subjectif, qui est partiel, qui est limité, mais qui détruit les versions, les fables officielles. Et je pense que c'est là où elles sont importantes. Et pour répondre à la question de la journaliste tout à l'heure, parce que j'ai quand même eu honte de l'éviter totalement, c'est que je m'arrêterai de témoigner sur le sujet quand on arrêtera de faire pression sur moi pour que je me taise. Donc a priori, j'ai encore quelques années d'écriture.
Peut-être encore deux ou trois questions, hein, parce que voilà.
Bonsoir, je m'appelle Eric Martinet, simple lecteur. Ma question s'adresse plus spécifiquement à vous, monsieur Hassel. Les populations civiles, tant au Rwanda qu'à Sarajevo, se rendaient-elles compte à la fois de l'impuissance de l'armée française ou de l'ONU en général, et surtout de la duplicité des autorités politiques qui pouvaient vous donner des ordres, ou alors elles ignoraient complètement ça et se sont rendues compte après, voire pas du tout encore aujourd'hui?
Cette question est délicate. En fait, quand on on guide des frappes aériennes, on évite tout contact avec les populations civiles. C'est d'abord parce qu'en général, sa tête est mise à prix, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de détruire une équipe de guidage que de détruire des avions. Donc on est d'une extrême discrétion. À Sarajevo, je n'ai jamais eu de contact avec la population civile. C'est très impressionnant d'intervenir dans un siège et de n'avoir jamais de contact avec la population civile. Au Rwanda, je me suis occupé pendant un mois d'extraction, d'aller chercher les rescapés. Donc là, c'était très différent, mais c'était une autre mission. Mon sentiment, c'est que, c'est ce que m'ont dit beaucoup, enfin, peut-être sorti une centaine ou 150 rescapés. Au milieu d'un million de morts, c'est très bizarre. Ça donne un sentiment de grandeur extraordinaire d'avoir sauvé des vies, et en même temps totalement illusoire, puisqu'on est juste dans un environnement où il y a eu à peu près un million de morts. Mais ces rescapés ont tous dit à peu près la même chose. Merci.
Alors, moi aussi, je vais dire merci. Moi, c'est Marcel Kabanda. Je suis président d'une association qui s'appelle Ecoca France. Ça veut dire que je m'occupe des rescapés. Alors, il y a une première question que je voudrais poser à M. Guillaume Marcel. Connaissez-vous le général Tosin? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Car quand il a écrit, il nous a bien dit que Turquoise n'avait pas pour mission de sauver les rescapés, mais de restaurer, de rétablir le gouvernement génocidaire dans ses pouvoirs à Kigali. C'est bien ce qu'il nous écrit. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que lui? Maintenant, une question qui se pose, que je voudrais poser à vous deux et à tous ceux qui nous écoutent. Chaque fois que j'entends ce genre de témoignage, je suis troublé. Qu'est-ce que moi je vais dire aux rescapés? Je vais leur dire que c'est compliqué en France, il n'y a pas de démocratie. D'abord, ce n'est pas vrai, il y a la démocratie en France. Qu'est-ce que je vais dire aux victimes? Parce qu'il faut penser à eux. Il ne faut pas juste penser à notre démocratie qui ne marche pas. Pensons aux victimes, aux millions de morts, aux rescapés qui attendent la vérité, qui attendent la réparation. Je leur dis quoi, moi?
Alors, deux choses, Marcel. D'abord, c'est une tradition dans l'armée française. On ne vilipende jamais ses compagnons d'armes, même quand on est en total désaccord avec eux. Voilà. Je suis en total désaccord avec l'homme dont vous avez parlé, mais c'est un ancien compagnon d'armes, donc je m'en fous. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les décideurs politiques. C'est ceux-là qui m'intéressent, parce que c'est eux qui ont pris la responsabilité des actions. Ce n'est pas aux militaires de décider des opérations, et tant mieux. C'est sûrement le propre d'une démocratie. Et sur le deuxième sujet, sur les rescapés, moi, le devoir de mémoire en France, ce débat qu'on doit avoir sur le Rwanda comme sur Sarajevo, c'est juste faire honneur aux victimes qu'on n'a pas su empêcher.
C'est une sacrée question, Marcel. Il n'y a pas de réponse. Malheureusement, tu le sais bien. Parce que ce que les rescapés vivent, ce qu'ils traversent, on en a à peine l'idée. On en a juste à peine l'idée. Donc, essayer de trouver tous les mots, on sait qu'on sera peut-être un petit peu plus près, mais toujours beaucoup à côté. Parce que moi, je ne suis pas un rescapé. Moi, je n'ai pas perdu ma famille. Moi, je n'ai pas perdu tous les miens. Moi, quand j'étais au Rwanda, avant, pendant et après, j'étais quelqu'un qui n'a fait que passer. C'est pas chez moi. C'est pas ma vie. La seule chose qui puisse nous engager et qui, je crois, engage tous les gens qui ont été au Rwanda et qui ont été présents au Rwanda, c'est tant qu'à faire, s'il est possible, essayer de redonner des mots à tous ceux qui sont partis. Essayer de leur rendre leur dignité. Alors ça passe par toutes ces discussions qui sont longues, laborieuses, etc. Mais essayer de les faire revivre, pas parce qu'ils ont vécu, qu'ils n'aient pas sombré dans une espèce de trou. Parce qu'un génocide, c'est d'abord un trou, une aspiration vertigineuse vers le vide. C'est d'abord ça, c'est le silence. Et donc, redonner des mots, c'est la seule chose, je crois, que nous puissions faire. Et ta question, elle est fondamentale, mais il n'y a pas de réponse. Et moi, j'avais une autre question à te poser. Parce que, en fait, j'ai écouté Marcel il n'y a pas très longtemps, au moment des commémorations, où j'étais au Jardin de la Mémoire, où Marcel prononçait un discours, les Jardins de la Mémoire du Rwanda, bien sûr, mais c'est un lieu qui existe à Paris depuis, j'ai oublié la date précise, mais il y a 2015, et le seul autre lieu à Paris, c'est le Père Lachaise. Il a fallu attendre 2014, et c'était le seul lieu où les Rwandais vivant en France pouvaient se rassembler. Parce que pendant des années, les Rwandais vivant en France se sont rassemblés dans des arrière-salles, dans des lieux absolument incroyables. C'était du bricolage, parce qu'il n'y avait rien en France pour qu'ils puissent se retrouver. Rien. Mais quel dédain. Et en même temps, ces gens qui vivaient avec nous, parmi nous, qui étaient passés parce qu'ils avaient passé, entendaient un discours de type de déni de l'événement. Ces gens-là étaient placés dans une position incroyable. Il a fallu attendre 2015 pour qu'il y ait le premier lieu à Paris commémoratif au Père Lachaise. 20 ans de bataille incessante pour arriver juste à cela. C'est incroyable. Et pendant ton discours, le 7 avril de cette année, Marcel, tu as une expression qui, moi, m'a interpellé. Tu as dit « Nous avons tenu à cause de la mémoire ». C'est ce que tu as dit au nom des rescapés. Et je me demande encore aujourd'hui pourquoi tu as dit « à cause » et pas « grâce à la mémoire ».
Marcel, il y a une chose qui nous relie. Ce sont les fantômes. Et écrire sur ce qui s'est passé au Rwanda ou à Sarajevo, c'est partager ces fantômes. C'est aussi pour ça que j'écris.
En tout cas, quand je vous ai posé la question concernant Tonzin, je ne voulais pas que vous... Je ne voulais pas entendre de vous des critiques le concernant. En fait, je voulais juste souligner cet aspect que quand il a écrit son livre, j'ai bien compris qu'il disait certainement la vérité, mais en fait, sa vérité tranchait du discours officiel sur l'humanitaire. C'est cela qu'il nous disait et c'est ça qui m'intéressait. Maintenant, pourquoi je dis nous avons tenu à cause de la mémoire et non grâce à la mémoire? Grâce à la mémoire parce qu'elle n'existe pas, la mémoire. Nous nous tenons pour la mémoire parce que nous devons la faire exister. Les fantômes, oui, nous les partageons. Alors, si nous continuons à les partager, eh bien, nous continuons à vivre. Mais ces fantômes ont besoin d'une vérité parce que sinon, ils vont nous hanter. Il faut sortir de ces lieux des fantômes. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre longtemps dans un cauchemar.
Alors, une dernière question. Mais de toute façon, après, vous pourrez reposer des questions aux intervenants. Oui.
Bonsoir, merci pour ces témoignages vraiment bouleversants. On voit qu'il a fallu 23 ans pour vous entendre ce soir. Et qu'il y a une quinzaine d'années, ce genre de témoignage aurait été vite mis comme un complotiste qui n'aime pas la France ou être sa manière. Donc, moi, qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à comprendre ce qui se passe. Et dans votre récit, vous disiez, oui, c'était les années 90, c'était assez particulier. Évidemment, le Rwanda est particulièrement spectaculaire dans l'échec de la politique française, mais on voit qu'il y a aussi une permanence de ce genre de politique. Et quand vous racontiez la livraison d'armes aux rebelles, l'image qui m'est venue, je me suis dit, mais si ça se trouve, pour le numéro 130 de la revue 21, il y aura un beau dossier sur le crime au Moyen-Orient, et un jeune soldat viendra nous expliquer qu'il est parti en Syrie à livrer des armes, soi-disant, à des rebelles, à des gentils rebelles, qui était quand même assez djihadiste quand il est arrivé sur place. Et ma question, c'est finalement, avec votre regard, vous, de militaire, et vous, d'observateur de la vie des médias, où il y a très peu de connards qui posent problème, pour reprendre votre expression quand même, c'est pas la majorité. Qu'est-ce que vous verriez comme action possible pour qu'on évite, ou en tout cas qu'on réduise l'intensité, la fréquence de ce genre de crise quoi, qui,
Ta réponse sera plus pertinente que la mienne, donc je vais commencer. L'ouverture automatique et légale des archives. Première chose, permettre aux historiens de pouvoir tout simplement faire leur métier sans avoir à négocier pour obtenir... Ce que François ne nous a pas raconté tout à l'heure, c'est qu'on lui a quand même écrit qu'il y avait des archives qui étaient consultables, mais pas ouvertes, pardon, ouvertes, mais pas consultables. Oser écrire ça, c'est quand même inouï. Donc, ouverture automatique et systématique des archives. La deuxième chose, pour moi, c'est un vrai contrôle démocratique, c'est-à-dire qu'on arrête d'enregistrer le fait que les opérations ont lieu et qu'on interroge, comme le font la plupart des pays démocratiques, hein, en Belgique, la commission sénatoriale après l'opération Rwanda, c'était sanglant, quoi. Et c'était extraordinaire. Les Belges ont pu savoir ce qui s'est passé. Moi, j'ai entendu à la radio, j'ai entendu un collègue pleurer en expliquant que, en s'entendant interroger par des sénateurs, qu'il avait donné l'ordre à ses hommes de déposer ses armes et que c'était une connerie inouïe.
et qui était responsable parce qu'il avait fait le Christian Quesnot qui a pleuré à l'Assemblée nationale. Je vous le signale quand même. Vous vous en souvenez? Et c'était pas la même chose. C'était du flan. Qui me dit que ce colonel belge, c'est pas du flan aussi?
Pardon, je ne me souviens pas que Quesnot un jour ait reconnu les opérations qu'on avait menées au Rwanda. Donc pour moi, le sujet là, c'est-à-dire qu'on ne pose pas les bonnes questions aux bonnes personnes. Et à ma connaissance, ce n'est pas au général Quesnot de décider des opérations françaises. C'est pour moi, on se trompe d'interlocuteur. Quand on s'attaque à des généraux Quesnot, on oublie juste qui sont les responsables politiques. Ou alors, il faut nous dire qu'on a changé de type de démocratie et qu'on a confié à l'amiral Langsade ou au général Quesnot de décider des opérations françaises. Mais à ce moment-là, on n'est pas dans le même système. La troisième chose, à mon avis, qui est fondamentale dans notre société, c'est la vigilance. Regardez aujourd'hui la pression terroriste sous laquelle on nous fait vivre. Est en train de nous faire avaler des mesures d'exception qui vont s'installer durablement dans notre vie. C'est ça qu'on souhaite. On accepte des mesures parce qu'on est sous la pression d'attentats, mais quelles en seront les conséquences? Qui le mesure? Qui est capable de dire que c'est normal qu'on puisse avoir des actions qui autrefois étaient contrôlées par la justice et qui demain seront décidées par des préfets? À quel moment je serai arrêté parce que je serai un complot contre l'État? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je pense qu'on manque globalement de vigilance. Voilà. Moi, ce serait plutôt comme ça que je répondrais. Et maintenant, je laisse Patrick vous dire des choses intelligentes.
Sincèrement, je n'ai pas de réponse intelligente. Je pense qu'on manque beaucoup de contre-pouvoirs. Si on parle de la presse, la presse a vécu pendant très longtemps dans une grande illusion. C'est de se prétendre au pouvoir. Elle se prétendait être le quatrième pouvoir. Mais la difficulté, lorsqu'on se prétend être un pouvoir, quand bien même le quatrième, c'est qu'on rentre dans la logique du pouvoir. Alors que le seul rôle de la presse, c'est pas de s'ériger en pouvoir, c'est d'être un contre-pouvoir. C'est peut-être pas, exemple hein, tout à fait hasardeux et qui n'indique rien de ce que je pense, mais lorsque je vois Jupiter sur toutes les couvertures des magazines, je me dis, mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis, quoi. Qu'importe le fond, il n'y a aucun jugement de fond, mais simplement j'ai l'impression de baigner dans un univers de communication. Et quand je dis ça, il n'y a aucun jugement de fond. Mais c'est juste l'apparence qui est donnée. On me dit en permanence, on vient me glisser, Jupiter est à l'Elysée. Et moi qui suis là, qui vois ses couvertures en passant dans la rue, mais qu'est-ce que je peux me dire? C'est juste incroyable. Et c'est du journalisme. Et voilà. Moi je me pose plein de questions de ce qui parle. Donc je rêve d'une presse qui redeviendrait juste un contre-pouvoir dans le bon rôle des choses, qui ne se prétendent pas pouvoir, qui ne se prétendent pas proche des puissants, qui ne se prétendent pas, qui prétendent juste faire son boulot. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'une des principales exigences que nous avons, je crois, tous, c'est que chacun puisse faire son boulot. On parle de la justice, qui est quand même un des ressorts importants dans ce genre de choses-là. La justice en France est sous-financée de manière incroyable. Lorsqu'on regarde le budget de la justice, plus de la moitié de son budget part vers la pénitentiaire. En France, nous sommes un pays à la fois extraordinaire et avec une magistrature, des tribunaux dans un état de délabrement incroyable, des dossiers qui s'entassent, la justice au quotidien, la justice pénale, c'est affligeant. Comment une démocratie peut-elle bien vivre de manière saine et sereine lorsque déjà à la base, la justice n'a pas les moyens de fonctionner, n'a pas les moyens de s'exercer, si l'on parle du Rwanda ou de ce type de dossier, quels sont les moyens donnés aux juges d'instruction du pôle spécialisé, de plus en plus réduit en permanence. Mais comme aujourd'hui pour les juges des tutelles, comme aujourd'hui pour les affaires familiales, ce sont des juges qui se battent avec des dizaines et des dizaines de dossiers qu'ils doivent gérer, et ils n'ont pas les moyens. Et ça concerne la vie de tous les jours, donc on sent bien que les difficultés, elles sont de ce type-là. Et voilà, la presse, la justice, enfin ce sont des piliers extrêmement importants. C'est pas eux qui font la démocratie, bien entendu, mais ce sont eux qui permettent de la faire vivre. Comme vous.
Guillaume, un mot, rapide. Ce sera qu'un mot, après vous êtes libéré. Écrire. 21, les histoires sont à l'intérieur. Quand j'ai eu la chance de voir le numéro un peu avant, j'étais halluciné. Et ça m'a rappelé un très mauvais épisode que j'aime pas raconter. C'est qu'en fait, j'ai hésité à écrire en format récit. À cause de lui. Il m'avait dit, tu as combien là, 12 ans, 13 ans de procès pour les Navoiles? Oui. C'est ça, ouais. Il dit, surtout si tu écris un jour sur le Rwanda, Guillaume, ou sur un autre sujet, surtout mettons en mode fiction, hein, parce que c'est le seul moyen d'être protégé. Et donc, en fait, le livre sur Sarajevo, je l'avais écrit comme un roman, avec un personnage, tiers, puis voilà, comme ça je suis inattaquable. Et je l'ai passé à un grand historien des conflits armés qui s'appelle Stéphane Audouin-Rousseau. Alors vous le savez sans doute, Stéphane Audouin-Rousseau, c'est le frère de Fred Vargas. Donc il m'a attrapé par l'oreille et il m'a dit: Guillaume, ma sœur, elle, elle est romancière. Quand elle écrit un roman, les gens viennent l'acheter, mais parce que c'est un roman qu'ils viennent chercher, tu vois. Ils sont contents en général avec, enfin, ça dépend des livraisons, mais c'est souvent pas mal. Toi, ce que tu racontes, c'est un récit. Donc soit tu le racontes à la première personne du singulier et tu t'exposes, soit tu le racontes pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais protégé en essayant d'en faire un roman. Alors j'ai repris ma plume, en réalité je tape sur un iPad. Donc je reprends mon iPad, et en 3 semaines, 4 semaines, je l'ai retransformé en récit. Et Stéphane Audouin-Rousseau l'a présenté aux belles lettres, Caroline Moirot. Elle l'a lu dans la nuit, le lendemain, elle m'a dit qu'elle le publiait, parce que le récit était vrai.
Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais d'abord vous convier les 14, 15 et 16 juillet à un festival de journalisme vivant à Autun. Donc le 14, le 15 et le 16 juillet, vous êtes tous conviés à un festival de journalisme qui est organisé par la revue 6 mois et la revue 21. Voilà, donc je vous invite également à rester pour boire un verre. Et si vous avez d'autres questions à poser aux intervenants, vous êtes les bienvenus. Merci.